Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de la famille Robineau. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Le Troll. Un document de Richard Vargas, rédactrice en chef Isabelle Clairac. Bonne écoute.
Hervé Robineau et ses femmes. Oh, c'était pas un coureur, Hervé Robineau. Il était même très amoureux de son épouse, Pascal. Mais à 44 ans, cet homme s'est empêtré dans une aventure qui a mené sa femme et une de ses filles aux assises. Il s'était pris d'une retraitée haute en couleur, sa patronne.
Puis une femme qui blague et qui rit, ça doit aussi attirer les hommes. Plutôt qu'une grincheuse dans son coin.
Quand la tribu Robineau a découvert la passade d'Hervé, elle lui a fait payer très cher cette trahison.
On va le tondre, il va le laisser faire, on va brûler ses vêtements, il va laisser faire. Il va falloir qu'il se taise à table, qu'il n'ait plus sa place. On lui fait vivre un enfer.
Tout le monde est trahi et ça monte.
Ça monte entre le père, la mère et leur fille, jusqu'à perdre tout repère, jusqu'au crime.
La tête ne tient plus que par les cervicales. Bernadette Benahim-Cugis a été pratiquement décapitée.
La justice a eu beaucoup de mal à comprendre comment cette famille avait pu en arriver là. Qui a décidé d'éliminer Bernadette? Qui l'a tuée? Le père? La mère? Leur fille?
Saint-Tropez. Ses plages. Ses yachts. Ses bikinis. Ses gendarmes. Ce 28 juillet 2014, ce n'est pas la jet set qui occupe la gendarmerie, la vraie, mais un crime. Au petit matin, une femme a retrouvé sa voisine dans une mare de sang, sur la terrasse de sa villa aux Issambres, comme poignardée plusieurs fois. Il est 8 heures quand les gendarmes découvrent la scène.
L'adjudant Stéphane Audic est sur place.
Lorsque j'aperçois le corps de la victime au sol, je suis surpris par la quantité de sang qui se trouve sous elle. Sa tête repose sur une grosse mare de sang. Elle est vêtue uniquement d'un peignoir blanc. On voit ses jambes, son sexe, sa poitrine. Et lorsque je m'approche, je vois une plaie énorme au niveau de la gorge et même une deuxième grosse plaie qui commence au niveau de la bouche et qui vient se terminer derrière. Le geste a tellement été violent qu'une dent a été déchaussée et se trouve sous elle. Cette scène, elle est effroyable. C'est une personne âgée qui est égorgée dans son jardin.
La victime s'appelle Bernadette Benahim-Cugis. Elle avait 67 ans. Elle a été presque décapitée. C'est Maria Rodriguez, une amie de longue date qui a prévenu les gendarmes. Elle habite dans la même villa où elle occupe un studio attenant à l'appartement de Bernadette. Mais Maria n'a rien vu, rien entendu. Elle raconte que Bernadette et elle ont passé une partie de la soirée de la veille ensemble. Elles se sont quittées vers 21h. Tout allait bien. Et puis, quand elle a quitté sa chambre à 7h du matin, elle a retrouvé Bernadette, morte, sur la terrasse.
Maître Gaël Gangloff, l'avocat de Pascal Robineau, raconte.
D'habitude, à cette heure-là, Bernadette est déjà dehors, sur la terrasse, en train de prendre son petit déjeuner, et là, ce n'est pas le cas. Il y a des indices qui laissent à penser qu'il y a quelque chose d'anormal. Les lumières extérieures sont toujours allumées, les volets sont ouverts, elle se rapproche, et là, pour elle, c'est une vision d'horreur. Elle se rend compte que son amie a été assassinée dans d'effroyables circonstances.
Veuve, sans enfant, Bernadette Benahim-Cugis vivait seule depuis quelques mois, dans un quartier assez huppé et très tranquille des Issambres.
Les gendarmes passent la maison au peigne fin.
Elle porte des bijoux qui semblent être de valeur. Il n'y a aucune trace d'effraction sur l'habitation.
Le maréchal des logis-chefs David Arandonea participe aux investigations.
Personne n'a pénétré dans la maison, rien n'a été bougé, il n'y a pas de désordre. Les portes sont fermées normalement. Cela conforte effectivement que la piste du cambriolage est à écarter.
Pas de traces de cambriolage, mais en revanche, les traces d'un piège. Un traquenard maladroitement tendu à Bernadette.
Je vois alors un premier départ de feu qui se trouve au niveau de la porte principale. Et en faisant le tour de la maison, on voit vers le barbecue un deuxième départ de feu au niveau de la salle de bain.
Lorsque nous approchons de ces deux départs d'incendie, nous avons une odeur d'hydrocarbure confirmée par la présence d'une bouteille remplie d'essence et de l'autre côté de l'habitation, d'un arrosoir également rempli d'essence.
Vu l'orientation des deux feux et vu leur emplacement, il y a de grandes chances que c'était pour faire sortir la personne qui se trouve à l'intérieur et effectivement s'en prendre à elle une fois qu'elle était sortie.
Pour les gendarmes, la volonté de tuer ne fait aucun doute. Mais qui ? Et pourquoi ? Dominique, que révèle l'autopsie de Bernadette Benahim ?
Alors, c'est une scène de crime, Rachid, d'une rare violence. L'expert observe deux plaies très nettes de type égorgement au niveau de la joue droite, du cou, et des plaies qui partent vers l'arrière, 25 à 30 cm. La victime a été quasiment décapitée, sa tête ne tient plus que grâce à sa colonne vertébrale. Elle a sur le côté droit du thorax, ici, une plaie de 6 cm, pénétrante, un objet qui a pénétré à 25 cm à l'intérieur du corps, qui a coupé des côtes, perforé un poumon, perforé le foie, coupé l'artère aorte, un coup mortel, on l'aura compris. Son nez est fracturé et elle a perdu une dent.
Avec quel type d'arme elle a été attaquée ?
Alors, on pense à un couteau avec une lame longue, pointue, type couteau de cuisine, effilé et très tranchant.
Et alors, est-ce qu'elle présente des lésions de défense ?
Non, aucune. Et ça, ça peut laisser penser qu'elle a été attaquée par derrière et donc par surprise.
Le 30 juillet 2014, une information judiciaire contre X s'est ouverte pour assassinat. Et le juge va faire appel à un expert en morpho-analyse. C'est le métier de Dexter, ouais, dans la fameuse série. Ouais. À partir de photos, il va analyser les projections de sang,
ouais,
leur distribution sur la scène de crime, et cela pour tenter d'établir un scénario. Alors, qu'est-ce que ça donne ?
1. Son corps n'a pas été déplacé. 2. Son agresseur se tenait derrière elle au moment où il l'a attaquée. C'est la répartition en arc de cercle des traces de sang. 3. Elle était debout. Et c'est au moment où elle tombe, donc, qu'elle va se casser une dent et se fracturer le nez.
L'éthique, les techniciens en investigation criminelle, explorent la scène de crime. Sur la zone de départ de feu, ils récupèrent du papier essuie-tout et un bouchon en plastique. Tout occupé à essayer de mettre le feu à la Bastide, le criminel y a peut-être laissé son ADN. Et pendant ce temps-là, les gendarmes convoquent les proches de Bernadette. Tous décrivent une femme au naturel joyeux, qui menait un train de vie aisé et qui a été très affectée par la mort de son époux, Paul, un an plus tôt.
Martine Renoud-Delma est l'une des amies de Bernadette.
Il avait 20 ans de plus qu'elle déjà, et puis oui, il fumait beaucoup, beaucoup, cigarette sur cigarette. Il était usé, quoi, usé par le tabac. C'était l'homme de sa vie, et pour elle, c'était très difficile.
Quand Paul est mort, ses enfants, nés d'un premier mariage, ont hérité de sa maison. Et Bernadette a dû quitter sa villa. C'est à ce moment-là qu'elle a emménagé en colocation avec Maria, dans la Bastide des Issambres.
Elle avait vraiment envie de s'installer là. C'était une maison agréable, il y avait une petite piscine. Il y avait un potager, Bernadette avait la main verte, elle aimait beaucoup s'occuper de faire pousser des légumes, des tomates, des salades.
– Une vie paisible, sous le soleil de la Côte d'Azur, agrémentée de quelques parties de golf avec ses amis.
Et elle était très drôle. On riait sur les coups qu'on faisait, les mauvais coups, les bons coups. Et elle était là pour s'amuser, pour être avec nous. Trois copines ensemble, quoi. Au niveau financier, Bernadette n'avait pas de problème. Paul avait fait le nécessaire et elle avait de quoi vivre bien, très bien, même jusqu'à la fin de ses jours. Elle était très gaie, très jeune de caractère, pétillante. C'était une jolie femme. Elle était en bonne santé, en plus. Un bout en train, quoi. Elle aimait beaucoup danser, elle chantait, elle frappait dans les mains. J'avais d'ailleurs une photo où elle mangeait une glace, une grosse glace. Une grosse glace avec de la chantilly, et ça la faisait rire. Elle était comme ça, quoi, croque la vie, bon.
Du golf et des glaces, mais pas seulement. À 67 ans, Bernadette savait très bien pimenter sa vie.
Bernadette, un homme qui lui plaisait, la barrière de l'âge, ça, je pense que ça ne devait pas la déranger. Oui, je pense qu'elle était assez libérée et coquine. De temps en temps, elle avait un amant, ouais. Elle passait pas inaperçue, hein. Surtout qu'elle faisait plus jeune que son âge. Et puis une femme qui blague et qui rit et qui se prend pas la tête, ça doit aussi attirer les hommes. Plutôt qu'une grincheuse dans son coin.
L'adjudant Stéphane Oudic et son équipe en font le constat.
Lorsqu'on exploite le téléphone de Madame Bernadette Benaïm, nous découvrons qu'elle a des échanges de messages de type SMS ou même photo, hein, à caractère sexuel avec différents hommes. Madame Benaïm a besoin d'être entourée par des hommes plus jeunes qu'elle, qui généralement se trouvent dans son environnement, c'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à faire du rentre-dedans au niveau de ses employés, donc jardiniers, piscinistes. On envisage donc cette piste aussi, celle d'un amant éconduit ou d'un homme jaloux.
Parmi les nombreuses conquêtes de Bernadette Benaïm, un homme de 44 ans attire immédiatement l'attention des gendarmes. Il s'appelle Hervé Robineau. Il a travaillé pour elle pendant de nombreuses années comme homme à tout faire. Officiellement, c'était son jardinier.
Maître Muriel Guestas est l'avocate d'Hervé Robineau.
Hervé Robineau, c'est quelqu'un qui, dans la vie, a un parcours de vie difficile, qui a rencontré sa femme très jeune. Ils ont eu deux filles, puis ils ont attendu un petit peu, ils en ont eu deux autres.
Maître Bernard Sivan, lui, est avocat de la partie civile.
Monsieur Robineau est un monsieur qui est arrivé dans la vie de Madame Cogis à un moment donné où, effectivement, elle était un petit peu seule. Il est devenu le confident tout en étant le jardinier. Et puis, c'est noué entre eux une relation sentimentale très forte.
Bernadette, c'est quelqu'un, pour lui, de la haute, comme on dit, de la haute société du monde. C'est une femme cultivée, c'est une femme qui s'habille, qui se vêt de manière élégante, classe, et elle s'intéresse à lui. Il est plus que flatté.
Maria explique aux gendarmes que la liaison entre Bernadette et son jardinier a commencé à l'été 2013, qu'elle a duré presque un an et qu'elle était assez tumultueuse.
Madame Rodriguez explique que la relation entre Hervé Robineau et la victime n'est pas normale. Ne serait-ce que par son comportement déjà en tant qu'employeur et employé, il lui faisait des remarques. Elle soupçonne même Hervé Robineau d'avoir frappé physiquement la victime. Elle a constaté des bleus et elle a toujours pensé que c'était Hervé Robineau qui l'avait frappé.
D'autres témoins le confirment. Depuis la mort de Paul, le jardinier prenait de plus en plus de place dans la vie de Bernadette. Sa femme, Pascale, travaillait aussi pour Madame Benaïm. Leur fille aînée, de 18 et 20 ans, Audrey et Roxane, fréquentait la maison. En réalité, toute la famille Robineau profitait des largesses de Bernadette.
Martine Renaud-Delma, l'amie de Bernadette, se souvient de cette période.
Bernadette avait le cœur sur la main. Elle les invitait au restaurant avec toutes leurs filles. Elle offrait des cadeaux, des bottes à sa femme. Elle avait envie de leur faire plaisir.
Les filles de la famille Robineau la considèrent un petit peu comme la grand-mère, puisque Madame Benaïm va notamment être présente à certains anniversaires des enfants des époux Robineau. Elle va payer le permis de conduire à l'une des filles Robineau. Elle partage avec Pascal de nombreux moments. Elles vont au spa ensemble, elles vont boire des cafés ensemble. Et ce n'est plus vraiment le lien classique entre une patronne et son employé, mais c'est plus un lien d'amitié.
Maria raconte que Bernadette pouvait tout demander aux Robineau. Elle leur faisait une confiance totale.
Nous apprenons également que M. Robineau, et même avec son épouse, ont accompagné Mme Benaïm en Suisse pour récupérer de l'argent dans un coffre.
D'après Maria, c'est d'ailleurs au cours d'un de ses voyages en Suisse, au début du mois de mars 2014, que Pascal, la femme d'Hervé Robineau, a commencé à soupçonner son mari.
Elle constate qu'Hervé prend soin de lui. Il se parfume, il s'habille mieux, il met des chemises.
On voit quelqu'un qui se pomponne, qui s'occupe de lui, qui s'achète des vêtements, qui change physiquement. Et ça, ça n'avait jamais existé hein, dans la famille.
Même ses filles vont l'appeler le duc. Pascal va vouloir en avoir le cœur net et elle va vérifier son téléphone portable. Et là, Pascal se rend compte qu'il échange de très nombreux textos à caractère sexuel avec Bernadette.
Mi-juin 2014, 6 semaines avant le crime, Hervé a donc dû choisir sa famille ou sa maîtresse. Il a choisi sa famille.
À ce moment-là, Pascal va demander à ce que lui-même explique à ses filles la relation adultère qu'il a entretenue pendant plus d'un an avec Bernadette. Et elle va l'obliger à lire des textos qu'il a envoyés à Bernadette. Bernadette était devenue une amie du couple et à partir de ce moment-là, elle va être détestée.
Un grand classique. Un homme englué dans une liaison qu'il regrette. Une femme trompée par son mari et par sa copine. Mais si un Robineau a fait le coup, lequel ? Hervé ou Pascal ? Le soir même de la découverte du crime, les gendarmes convoquent le couple Robineau et ses filles aînées, en qualité de simple témoin.
Tout le monde paraît assez décontracté ce jour-là. On a même Roxane Robineau qui est plutôt loquace, joyeuse, qui ne semble pas marquée par le décès de Madame Benaïm alors qu'elle connaissait cette dame.
Interrogé sur son emploi du temps de la veille, Hervé Robineau explique qu'il est allé chercher sa fille Roxane à Roquebrune, au restaurant où elle travaillait.
Il était environ 23 heures, il est rentré. Ensuite, il s'est couché en prenant ses cachets. Il a dormi toute la nuit jusqu'au lendemain matin sans se réveiller.
Le mari ne cache pas sa relation avec Bernadette, une liaison qui l'a mis dans de beaux draps.
Monsieur Robineau explique qu'il vit très mal cette relation extra-conjugale. Pour lui, il a commis une faute au sein de la famille, que depuis, donc il a honte. Il se fait suivre par un psychiatre, il prend des antidépresseurs et il nous déclare même avoir le tenté à sa vie.
Sa femme ne dit pas autre chose. Elle aussi a travaillé pour Madame Benaïm et est devenue très amie avec elle. Et elle aussi a coupé les ponts avec cette femme qui l'a trahie.
Madame Robineau est très choquée, dégoûtée de cette découverte, d'autant plus qu'elle est malade, elle a eu plusieurs cancers, elle souffre du dos. C'est pour ça que Pascal Robineau vit très mal cette trahison de la part de son mari, mais également de Madame Benaïm.
La soirée du crime, elle était chez elle, comme d'habitude, et elle s'est couchée tôt, pendant que les grandes, Audrey et Roxane, papotaient.
Pascale Robineau, elle est frêle, elle sort d'une opération du dos, elle n'est pas en mesure pour nous d'avoir porté les coups violents qui ont tué Bernadette Benahim.
Restent les deux aînés de la famille Robineau. À 18 ans, Audrey était parfaitement au courant de la liaison entre son père et Bernadette. Mais on n'est pas une famille de sauvages. On en a discuté tous ensemble. Il n'y a pas de secret entre nous. Et puis voilà. Pas de raison d'en faire un drame. Quant au soir du 27 juillet, elle confirme, point par point, l'emploi du temps livré par sa mère.
Elle est rentrée à 1h du matin. Ses parents ne les a pas vus, ils étaient en train de dormir. Seule sa sœur Roxane était présente. Elles ont discuté. Et sur le coup de 3h du matin, Pascale Robineau serait descendue pour leur demander d'aller se coucher. Et avant cela, elles auraient fumé une cigarette toutes les trois ensemble.
Sa sœur, Roxane, qui a 20 ans, confirme. À un détail près. Elle raconte qu'elle est rentrée vers 23h de son travail et qu'elle a passé une partie de la nuit à discuter avec sa petite sœur.
Comme elle faisait trop de bruit, son père est descendu pour les engueuler. Elle se souvient très bien de cette scène. Donc déjà là, nous constatons qu'il y a une petite divergence. Audrey déclare que c'est sa mère qui est descendue les voir, alors que Roxane précise que c'est son père. Donc déjà, à partir de ce moment-là, on a des doutes sur leur déclaration.
Et ce n'est pas tout. À la fin de son audition, Roxane fait un faux pas.
Elle commence à me parler, voilà, Bernadette. Je lui dis, oui, c'est triste de terminer comme ça, c'est-à-dire mourir à 67 ans. Et elle me pose la question d'un air étonné. Pourquoi elle a été décapitée ?
Un mot de trop. Car la consigne était claire chez les gendarmes. Ils ne donneraient aucun détail sur le crime. La famille est relâchée, mais placée tout de même sur écoute. Dominique, dans ce dossier, les gendarmes ont beaucoup travaillé sur la téléphonie. Est-ce qu'elles confirment les déclarations de la famille Robineau sur leurs emplois du temps la nuit du crime ?
Alors, les téléphones, celui d'Hervé, le père d'abord, il borne cette nuit-là dans sa maison. Mais, à 3h du matin, Audrey, la plus jeune fille du couple, est en train de se photographier, de faire des selfies que les gendarmes vont retrouver. Et elle est où ? Dans la chambre de son père. Son père qui est censé dormir. Première incohérence. Deuxième chose, le téléphone de la mère, Pascale. Elle dit qu'elle n'a pas bougé de la maison cette nuit-là. Or, son téléphone va borner le soir à 20h23 et le lendemain matin à 7h46 aux Issambres. Les Issambres, c'est là qu'habite Bernadette Benahim. Donc, Pascale a menti. Le téléphone de Roxane, l'aînée. Il était chez ses parents la nuit du crime. Mais après, il n'est plus localisable, quand je dis après, c'est après l'heure du crime, jusqu'à 11h39.
Et que révèle la téléphonie sur la relation entre Hervé et la victime ?
Des centaines d'échanges, Rachid. Dans les deux premiers mois de 2014, Bernadette et Hervé ont échangé 600 SMS, appels téléphoniques, photographies. Et curieusement, quand les gendarmes vont observer le téléphone d'Hervé, il a tout effacé. Sauf deux messages vocaux de Bernadette le 11 juillet 2014, c'est deux semaines avant sa mort. Hein. Et voilà ce qu'elle lui dit. « Décidément, tu ne veux pas m'affronter. Affronte-moi. Vous êtes minable, petit. Je vais regretter de vous avoir côtoyé. »
Alors visiblement, elle lui en veut, et elle en veut aussi à sa famille.
Oui, apparemment. Hein. Alors bien évidemment, les gendarmes vont se poser des questions sur le mobile. Hein. Bernadette Benahim, elle a de l'argent, on le sait. Donc, est-ce que c'est un motif financier ? Les enquêteurs vont regarder les comptes des uns et des autres. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de retrait suspect sur le compte de Bernadette Benahim. Le mobile n'est pas là.
Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à l'histoire de la famille Robineau. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2.